Urbanité, une émission en partenariat avec Terre Urbaine, présentée par Thierry Paco, philosophe de l'urbain.
Bonjour à toutes et tous. Au programme de cette émission, un éditorial consacré aux espaces verts, la belle rencontre avec Andrea Setti et Philippe Leroy, qui animent à Toulon l'association Robin des Bancs, et Clara Cibet, architecte, et Philippe Cibet, philosophe. Tous deux viennent de publier aux éditions Actes Sud « La ferme du rail pour une ville écologique et solidaire », préface de Baptiste Lanaspez. C'est tout un programme qu'on va examiner en détail.
Urbanité. L'édito.
Longtemps, l'expression « espace vert » provoquait le sarcasme tant il correspondait à une pauvre pelouse anémique, vite occupée par des autos immobiles. L'espace vert était un cache-misère de la fausse nature en ville, ce qui était abandonné en premier lors des restrictions budgétaires. Sur les affiches des promoteurs immobiliers, l'espace vert soigneusement délimité, donc facile à entretenir, attestait d'un certain standing tout en étant un alibi hygiéniste et plus tard écologiste. Refaisons d'abord l'histoire des espaces plantés dans l'organisme urbain, suggère l'historien François Loyer en 1987. L'utilisation de la verdure, écrit-il, comme élément d'organisation de l'espace urbain ne se conçoit que lorsque le rapport ville-campagne est définitivement rompu, c'est-à-dire quand la dimension de l'agglomération urbaine est telle que le paysage rural n'est plus perceptible ni directement accessible depuis la ville. En effet, l'espace vert compense la perte de la campagne pour de nombreux nouveaux citadins, sorte d'ersatz de nature en ville, qui, contrairement à son nom, n'est pas toujours vert, à l'automne en particulier. Je n'ai pas trouvé ni qui, si jamais cela a été le cas, a inventé l'expression, ni quand. Dans la charte d'Athènes, publiée en 1942, l'on trouve surface verte. Et avant, aussi bien les urbanistes que les textes juridiques mentionnent espace libre. En 1954, Jean de Vailly publie « Les espaces verts, structures et techniques ». Et en 1955, Jacques Chassereau, « Espaces verts et forêts de promenade de la région parisienne ». Plus tard, en 1953, la revue Urbanisme consacre un dossier entier aux espaces verts. On peut donc considérer que c'est au début des années 50 que cette expression est consacrée. Nous voilà rassurés. Jean Chassereau ajoute « On peut dire aussi que la beauté d'une scène paysagère tient à son heureux concours de lignes, de couleurs, voire de parfums, et même de bruissements très faibles, ce qui n'est pas rien. Quelle est l'utilité des espaces verts? L'amélioration de l'air et l'émission de vapeur d'eau, c'est ce qu'on dit à cette époque. Ce sont les arbres qui fixent le carbone, tout comme ils absorbent les bruits urbains et ralentissent la vitesse de ruissellement, et réduisent d'autant l'érosion du sol. » En 1962, le même Jean Chassereau rédige l'article « Les espaces verts et l'hygiène publique » dans la revue « La vie urbaine », où il rappelle ce qu'il entend par « espace vert ». Je le cite « Les balcons, terrasses et jardins individuels, les jardins d'immeubles, les jardins et aires de jeux libres pour les enfants, les jardins d'école, les installations d'éducation physique et des sports, les centres de jeunesse, les parcs et jardins publics, boisés, de conception rustique ». Il étudie la résistance des arbres aux pollutions et constate que les feuillus sont moins sensibles que les épineux. Il suggère d'établir, quand cela est possible, des liaisons vertes, c'est-à-dire des continuités biologico-végétales, en évitant les clôtures et en favorisant les complicités entre jardins privés et publics. En 1968, le paysagiste Jacques Simon lance le magazine « Espace vert ». On peut dire que l'expression est totalement et définitivement acquise. Pour la France, l'Observatoire des villes vertes, en 2020, indique les 10 premières villes les plus actives en verdissement, dans l'ordre. Angers, Nantes, Metz, Lyon, Poitiers, Rennes, Caen, Nancy, Brest. La moyenne d'espace vert par habitant pour les 50 premières agglomérations urbaines françaises est de 51 mètres carrés, soit 3 mètres carrés de plus qu'en 2017. On progresse, mais bon. À quel rythme? Mais les inégalités entre villes sont considérables quant au nombre de mètres carrés par habitant. Cela va de 2 mètres carrés à 204 mètres carrés et même plus de 400 pour Besançon. L'accès au patrimoine vert varie également d'une ville à l'autre. Brest offre 4000 hectares d'espace naturel, Limoges 700 et Angers 300. Loin devant les autres agglomérations. C'est pareil pour l'investissement vert. Là encore, la moyenne est de 76 euros par habitant et par an pour les 50 plus grandes villes, alors que Nantes, Angers, Reims, Amiens, Lyon dépassent chacune les 100 euros. À l'échelle internationale, les classements diffèrent. Pour le site Tripadia, les villes les plus vertes, celles qui possèdent le plus d'arbres et de végétation visibles, sont dans l'ordre. Mondial, Singapour, Vancouver, Sydney, Sacramento et Francfort. Paris est à la 17e place avec un indice de 8,8%. Les 10 premières villes vertes au monde sont en 2018 dans l'ordre Reykjavik, Auckland, Bratislava, Gothenburg, Sydney, Prague, Rome, Berne, Hambourg, Riga. D'autres institutions ou organismes mentionnent Hambourg comme la ville disposant du plus d'espaces verts et d'autres Moscou. Là encore, les classements ne sont pas stabilisés. La prudence s'impose donc, car la superficie brute, évidemment, est différente de celle de l'accessibilité aux espaces verts et à la qualité environnementale, et surtout à la question de leur entretien. Enfin, un critère serait à prendre, mais ô combien délicat à mesurer, la satisfaction des habitants, petits et grands, et évidemment, la satisfaction de la faune et de la flore. Mais qui va demander à un arbre ce qu'il pense des gens qui viennent autour de lui jouer ou parler ? Que ressent cet oiseau face aux baies vitrées des gratte-ciels qui entravent son parcours et contre lesquels bien de ses congénères se sont fracassés ? On parle de 800 millions d'oiseaux aux États-Unis chaque année qui viennent se tuer par les baies vitrées des immeubles de grande hauteur. Et cet arbre, emprisonné par le bitume ? Pour les habitants, on l'a vu avec le confinement et le couvre-feu, l'accès à un espace vert relevait du bien-être, avec le silence qu'il procurait et la possibilité de marcher parmi les arbres, ce qui était bon pour leur santé. Leur santé des humains et leur santé des citadins. N'empêche que je n'utilise pas trop cette expression qui s'apparente largement au marketing. Et non pas l'idée que je me fais de l'herbe, des plantes, des fleurs et des arbres, dans leur combinaison intrépide et foisonnante qui transfigure et le bâti et le chemin qui y conduisent. La lande, le taillis, la garenne, le maquis, la varenne, la gâtine, la garrigue, la friche, le terrain vague, la marge appartiennent aussi à la nature indomptée que la ville adopte aux côtés des chemins de halage, des rives, des jardins ouvriers, des jardins publics, du parc de la mairie, des ronds-points plantés si bien tenus à la géométrie parfaite et avons lieu passablement triste. Pour moi, l'expression « espace vert » respire l'ordre marchand, sort d'un rayon de magasin, porte un numéro de catalogue, se tient au garde-à-vous et n'a rien à voir avec l'exubérance des plantes et des lianes, des lierres et des glycines, des bambous et des lauriers, des adventices et des autres mauvaises herbes. Entendez-vous ces buissons indisciplinés murmurer la chanson de Brassens ?
De gloire est arrivé, comme tous les autres étaient crevés. Moi seul connu le déshonneur de ne pas être mort au champ d'honneur. Je suis la mauvaise herbe, braves gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. La mort faucha les autres, braves gens, et me fit grâce à moi, c'est immoral et c'est comme ça. La 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. La fille à tout le monde a bon cœur, elle me donne au petit bonheur les petits bouts de sa peau bien cachés que les autres n'ont pas touchés. Je suis la mauvaise herbe, braves gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Elle se vante aux autres, braves gens, elle se donne à moi, c'est immoral et c'est comme ça. La 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange qu'on m'aime un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange qu'on m'aime un peu. Les hommes sont faits, nous dit-on,
pour vivre en bande comme les moutons. Moi je vis seul et c'est pas demain que je suivrai leur droit chemin. Je suis la mauvaise herbe, brave gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Je suis la mauvaise herbe, brave gens, je pousse en liberté dans les jardins mal fréquentés. La 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu.
Alors Brassens me permet une transition aisée avec nos invités de la belle rencontre, puisqu'il a aussi chanté les bons publics. Andrea Setti, voyageuse, polyglotte, amoureuse des arts et des gens, et Philippe Leroy, praticien des arts vivants, à l'affût de toute nouvelle création, aime aussi les faire connaître, aussi organise-t-il des spectacles et des rencontres. Bonjour, vous êtes à Toulon, où vous animez l'association Robin des Bancs. Pourquoi cette association et pourquoi ce nom ?
La mairie de Toulon a enlevé presque tous les bancs au centre-ville de Toulon. Et lorsque nous avons parlé à un fonctionnaire, il nous a expliqué qu'en fait le maire était contre la sédentarisation. C'est le mot qu'il a utilisé. Et pour nous, ne pas pouvoir se poser dans l'espace public de la ville constitue une vraie injustice. C'est pour y remédier que nous avons créé l'association Robin des Bancs, et parfois, bien sûr, par référence à Robin des Bois. Et notre mission, c'est de sensibiliser à l'importance des bancs et de convaincre la mairie de remettre les bancs dans l'espace public pour permettre à tout le monde de s'asseoir.
Alors, vous avez plein d'activités, on le voit sur votre site, hein, que je conseille d'aller regarder à tous nos auditeurs. Vous avez pas mal travaillé avec les écoles.
Ah oui, et ça c'était une expérience extraordinaire parce que travailler avec les enfants qui ont beaucoup d'empathie, surtout lorsqu'on a discuté avec eux, on a vu que les enfants ne pouvaient pas concevoir qu'on ne permettait pas à certaines personnes de se poser en ville. Et donc, nos interventions à les écoles, ça part en deux parties. Dans une première partie, on rencontre les enfants dans les classes et on discute avec eux interactivement sur ce que c'est l'espace public, comment on l'habite, c'est quoi le mobilier urbain, la générosité du mobilier urbain, l'hostilité, c'est-à-dire de faire du mobilier urbain, mais qui est très moche, on ne peut pas très bien s'asseoir, c'est pas confortable. Et les enfants comprennent très très bien l'utilité sociale du mobilier urbain. Tout de suite, ils ont déjà raconté leur propre expérience à se rencontrer avec des copains sur un banc, à échanger. Il y avait même cette fille qui avait les larmes aux yeux parce qu'elle ne rencontrait plus sa copine sur ce banc. On se rencontrait toujours.
Donc, bah, c'est très important. C'est bien triste.
Ouais. Et donc, après ces discussions avec les enfants, on les amène à devenir en fait acteurs actifs dans leur propre école et de s'occuper de leur banc. Et dans ce cas-là, c'est de peindre les bancs. Philippe vous montre un exemple d'un banc qui a été peint. C'est vraiment un banc. C'est les enfants qui ont créé ce dessin. Et ils ont aussi fait la peinture eux-mêmes, donc nous sommes seulement un peu les motivateurs, mais c'est eux qui ont les idées et qui font la peinture. Et c'est fantastique. Et les enfants ressortent avec beaucoup de fierté d'avoir fait cela. Ils sont encouragés à la prochaine fois, lorsqu'ils voient quelque chose qui leur plaît pas, d'interagir et d'agir en tant que citoyen. Ça, c'est le banc de la tolérance. Il y avait ce garçon qui disait que il faut que n'importe la couleur qu'on a de la peau, il faut qu'on a le droit de s'asseoir.
Donc c'est un banc multicolore.
Oui, avec des visages de toutes les couleurs.
Et d'accord, très bien. Ouais. Là, il faut le dire parce qu'on est à la radio, donc il faut décrire.
Ah, vous ne voyez pas les photos.
Donc, comme il dessinait tous les visages de couleurs, on a dit pourquoi toutes ces couleurs. Il nous a répondu, c'est pour que les gens puissent s'asseoir quelle que soit la couleur de leur peau. On a trouvé ça magnifique à 10 ans de dire ça.
Et oui, c'est une bonne initiative. Et vous-même, vous préparez, vous avez déjà lancé un festival des bancs.
Alors nous avons fait une fête du banc effectivement en 2018. Et dans cette fête du banc, on a fait venir beaucoup d'artistes et on les faisait jouer dans la rue avec plein de chaises, de fauteuils, de chaises longues pour montrer qu'on était bien assis dans la rue. Et en cette fête du banc, il y avait aussi on a fait aussi une exposition de ce que l'on a conçu avec des étudiants. Donc les étudiants, on leur a proposé d'habiter des étudiants en design, comment s'asseoir dans la ville, mais on voulait faire quelque chose d'un petit peu différent, pour que ce soit la mairie voulait attirer les touristes, voulait faire quelque chose d'artistique. On leur a proposé de faire un parcours touristique avec des œuvres d'art, mais des œuvres d'art sur lesquelles on peut s'asseoir. Et donc les étudiants nous ont conçu quelque chose en fonction de l'historique de Toulon, avec des bancs parfois très originaux en rapport avec l'histoire de Toulon. Par exemple, on a un banc, celui qui nous a le plus surpris, c'est que les étudiants ont fait un kiosque de sous-marin. Et on s'est dit, un kiosque de sous-marin, quelle drôle d'idée, mais en fait c'était pour peindre une place en bleu avec des vagues, et faire sortir au milieu ce kiosque du sous-marin, et de chaque côté du kiosque, il y a les petits ailerons, et qui ont été designés pour qu'on puisse, que ce soit deux sièges très confortables. En plus, c'était fait en acier noir avec un revêtement en teck, et ce banc est magnifique. Les bancs ont été exposés au musée de la Marine, plusieurs avaient un rapport avec l'histoire de la Marine, puisque Toulon est une ville avant tout tournée vers la mer. Donc nous avons eu de belles expériences avec les étudiants de design pour faire des bancs artistiques.
Et sur votre site, on voit aussi l'intérêt de reconstituer l'histoire des bancs, parce que le banc a une longue histoire. Vous montrez des bancs de tous les pays et de tous les temps. Et on sait par les archéologues qu'il y avait des bancs dans la Chine et l'Inde ancienne, ainsi que chez les Grecs, hein, l'exèdre. Qui vient du mot « ex-or » et puis « edra » siège, donc un siège qui est dehors. Et les Romains aussi, on en trouve à Pompéi. Les historiens les repèrent dans l'habitat médiéval. Et puis on connaît tous l'histoire du mot « banc » dans plusieurs langues, qui va donner là où le changeur effectuait ses transactions, qui va donner le mot « banque ». Et puis lorsque sa transaction était irrecevable par le client, il cassait le banc et ça donnait le banc cassé en italien, banco rotto, qui va donner banqueroute en français. Donc il y a quand même tous ces liens-là. Et puis il y a surtout l'idée que le banc est anthropomorphisé. C'est-à-dire qu'il a un dos, il a des pieds, il a des bras. Qu'est-ce qui lui manque alors ?
L'idée, c'est d'avoir le plus de convivialité possible, effectivement. Donc, pouvoir peut-être jusqu'à dormir dessus, et ça, c'est pas accepté par tout le monde, malheureusement.
Alors, le banc, on connaît tous le banc de Gabriel Daviou, puisque Haussmann l'avait privilégié à Paris, hein, un banc qui est à double face, j'allais dire. Mais il y a eu d'autres bancs. Lors de l'exposition universelle de Paris en 1878, on montrait 70 modèles de bancs. C'est quand même incroyable. Et à celle de 1900, on en montrait 200. Donc il y a eu un appauvrissement du design, ou bien vous pensez que il y a toujours une telle abondance, une telle variété?
Il y a encore beaucoup d'abondance, parce que maintenant on va faire des bancs connectés, des bancs avec ombrières, des bancs avec des plantes intégrées, et puis des bancs artistiques. Il y en a des très connus comme celui de Gaudi à Barcelone. Mais il y a de plus en plus de bancs dans les villes. Il y a des gens qui ne sommes pas les seuls à avoir eu l'idée de faire des bancs artistiques. Et nous avons fait d'ailleurs, pour aider à la dynamisation du centre-ville, parce qu'on pense que pour un centre-ville, pour qu'il soit dynamique, il faut qu'il y ait des bancs, il faut qu'il y ait aussi des arts, vous avez parlé des espaces verts, il faut qu'il y ait des jeux pour les enfants, il faut qu'il y ait beaucoup de choses. Et donc on avait eu l'idée de prendre des photos de bancs du monde et de les mettre chez les commerçants, à faire un espèce de jeu où les gens devaient aller chercher dans tous les commerçants la photo et essayer de deviner de quel pays ou dans quelle ville le banc avait été pris. Et avec toutes ces idées de différents bancs, ça permettait aux gens de venir au centre-ville. Et là, on a une envie de recontinuer de travailler avec les commerçants, parce que finalement, le centre-ville, c'est aussi grâce aux commerçants qui vivent. Et donc, on va demander une cartographie des commerçants accueillants. Alors les commerçants accueillants, pour Robin Desbancs, c'est pas forcément ceux qui ont un sourire, mais ce sont ceux qui sortent deux chaises devant leur pas de leur porte, avec une petite table pour que les gens puissent, lorsqu'ils se promènent, lorsqu'ils font leurs courses, puissent se poser par moment. Et donc là, on a un accueil très favorable des commerçants pour sortir une ou deux chaises, et on va faire une cartographie à Toulon des commerçants accueillant, avec un banc, et on va faire un événement, on va faire notre deuxième fête du banc en 2022. C'est sûr qu'on a été un petit peu bloqué par le Covid, et donc ben, peut-être que tous les 4 ans, c'est une bonne idée de faire... Il y aura des fêtes du banc tous les 4 ans.
Les Jeux Olympiques du banc, alors, c'est ça, tous les 4 ans. Alors, par rapport à la ville de Toulon, puisque le point de départ, c'est réagir à l'absence de banc ou au fait de les retirer, est-ce que l'association, là, a marqué des points ?
Ça commence tout doucement. Ils ont commencé à mettre des fauteuils un par un, espacés de 4 mètres. Et donc, on a fait des petites vidéos amusantes où on leur montrait qu'un couple essayait de se parler à 4 mètres de distance. Maintenant, ils ont accepté de mettre les bancs deux par deux. Et puis, cette année, depuis les élections, il y a eu des changements au niveau de l'équipe municipale. Et j'arrive à rencontrer une personne qui est responsable l'adjoint responsable des bancs. Et il finit par aimer notre projet et il va essayer de convaincre le maire d'améliorer les choses. Et on a fait déjà plusieurs fois le parcours avec lui. Donc, on a des espoirs que ça s'améliore.
Bon, bah écoutez, c'est ce qu'on souhaite. Merci beaucoup à vous deux. Bonne journée. Merci. Vous nous avez rappelé que l'habitabilité d'une ville se mesure à ses fontaines, ses bancs, ses chaises et ses abris gratuits dont disposent les passants, qu'ils soient ou non de cette ville. Ainsi, une ville hospitalière valoriserait et accepterait toutes les manières de s'asseoir. Merci.
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 Urbanité. Le sujet qui fâche.
Le sujet qui fâche, l'architecture est-elle sociale et écologique ? Pour répondre à cette question cruciale, Clara, architecte, et Philippe, philosophe, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Clara, comment as-tu été amenée à travailler sur cette parcelle parisienne, assez petite, 1300 m², du 19e arrondissement dans le quartier Ourcq, le nom d'une rivière, mais qui n'arrive pas à Paris, c'est le canal qui arrive à Paris, longé par la petite ceinture ?
Bonjour à tous. Le tout début de cette histoire, c'est la rencontre de deux enjeux urbains qui sont très présents, et notamment celui d'un ancrage de quartier, c'est la volonté d'un quartier de voir naître ce type de lieu, et donc j'y reviendrai là-dessus, et puis aussi une volonté politique de voir la ville se faire autrement, et notamment avec le lancement des ce qu'on appelle les appels à projets innovants, qui sont qui à l'époque naissaient, en fait c'était un des premiers rounds de ce type d'appels à projets, et celui-ci s'appelait Réinventer Paris, donc lancé par la ville de Paris, qui proposait des parcelles à des groupements pour inventer un autre programme et d'autres façons de faire la ville. Et la réponse, donc, la façon dont nous, on est arrivés sur ce quartier, c'est d'abord d'être habitant de ce quartier, de le connaître, d'être engagé dans les associations du quartier en tant qu'architecte, en tant que paysagiste, en tant que philosophe, et en tant qu'association, bien sûr, qu'on a invité à répondre sur cette parcelle qui était proposée, donc, dans le 19e arrondissement, l'Est parisien. Et qui, du coup, sur ces enjeux-là d'ancrage, je vais recoudre avec la chanson de Brassens, puisque Les Mauvaises Herbes, c'est le nom de la map, justement, dans laquelle on s'est tous rencontrés. Donc, des associations engagées dans la question sociale très fortement depuis une trentaine d'années, qui accompagnent des gens qui viennent de la rue et qui souhaitent créer une autre façon d'accueillir ces personnes, donc une question d'hospitalité, là aussi.
Donc là, déjà, on voit que la question sociale est présente, quoi, tout de suite.
Immédiatement.
Et alors, dans Réinventer Paris, est-ce qu'il y avait un programme ou c'est quelque chose qui est né en compagnonnage, j'allais dire
Alors, la programmation était créée par les personnes qui sont réunies là, à ce moment-là, au tout début du projet. Il n'y avait pas de programme, il y avait simplement une orientation, parce que la parcelle était une espèce d'extension de la petite ceinture qui est l'espace sauvage parisien, qui aujourd'hui est plus offert à la promenade, mais qui, à l'époque, était fermé qui est une réserve de biodiversité, et donc il fallait pouvoir préserver ça. Donc l'orientation était donnée sur de l'agriculture urbaine. La ville, je pensais plutôt à un jardin, et évidemment on a proposé davantage.
Alors voilà. Quoi
Donc le programme qui a été construit là très tôt ces associations, Atoll, Travail et Vie, et Bail pour tous, Réabail, donc des associations qui travaillent bailleurs sociaux, maîtrise d'ouvrage sociale, foncière, qui travaillent depuis des années ensemble à l'accueil, à comment faire du sur-mesure à un accueil des personnes qui viennent à la rue. Et donc, la volonté d'offrir pour ces personnes un lieu qui soit à la fois un lieu d'hébergement, un lieu de travail et un lieu d'ouverture au quartier pour ne pas enclaver cet accueil social, le rendre visible et le rendre utile à la ville et retourner en fait ces questions-là, et pour que à nouveau ceux qui sont exclus justement redeviennent les accueillants et alors, trouvent une place dans la ville.
Est-ce que c'est là où le philosophe intervient ou il est déjà là avant, Philippe?
Moi, je suis intervenu au départ, surtout au moment de la conception du projet, pour discuter des options qu'on pouvait mettre en place, et puis d'une vision de l'agriculture urbaine qui intégrerait une dimension sociale. C'est-à-dire que pas réserver l'agriculture urbaine à une activité de loisir ou à une activité productive, mais de dire que c'était aussi l'occasion de former des personnes pour leur donner un emploi. Et c'est une question particulièrement importante parce que là, on est dans le 19e arrondissement. C'est un quartier, un arrondissement populaire à Paris, où je crois la question de la solidarité fait partie un peu de notre ADN. Donc, on voulait aussi garder ça très fortement dans le projet. Bien évidemment, il y avait d'autres concurrents, mais nous, on voulait gagner pour garantir un peu cette dimension sociale.
Et l'importance quantitative des sans-domicile fixe ou des mal logés dans le 19e,
alors, c'est l'arrondissement, le 19e, c'est l'arrondissement où il y a le plus de logements sociaux. J'ai plus le chiffre.
Non, mais peu importe.
Ouais, j'ai plus le chiffre en tête. C'est un quartier où il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration. Il y a beaucoup de familles nombreuses. Voilà, donc. Mais tout ça, c'est de l'énergie, en fait. L'énergie avec des gens qui ont envie de se mobiliser pour voir leur quartier se transformer. Donc, le point de départ de notre démarche, c'est de dire, en fait, nous, on intervient dans notre quartier, avec les gens qui sont des gens du 19e, parce qu'on le connaît tous et on a tous envie de le défendre. Et cet ancrage local, ce n'est pas un localisme un peu bébête.
Oui.
C'est de dire, il y a une maîtrise d'usage, il y a un sens des responsabilités qu'on a en tant qu'habitante et habitant du 19e arrondissement, et avec une connaissance fine aussi de ses acteurs, de son monde associatif, de toutes ces ressources qui sont là et qu'on va pouvoir mobiliser.
Alors, est-ce que vous avez pu parler, l'un comme l'autre, à ceux qui allaient bénéficier, entre guillemets, de ce nouveau lieu que vous étiez en train de façonner ?
Alors, bien sûr, mieux que ça, puisqu'on a créé, on a façonné les espaces, on les a dimensionnés, on a les flux, les échanges qui allaient se faire. Il faut peut-être dire que c'est un lieu qui a un hébergement, un centre d'hébergement pour 15 personnes et pour 5 étudiants, donc 15 personnes qui viennent majoritairement de la rue. Il n'y a pas un profil type de la personne défavorisée, bien sûr, exclue. Il y a tous les profils. Et puis, 5 étudiants en école d'horticulture ou architectes qui sont hébergés à la même enseigne dans ce bâtiment, donc ce premier bâtiment d'hébergement. Tout ça s'organise autour d'un grand potager qui est le lieu central sur lequel on est d'abord accueilli quand on arrive à la ferme du rail. Et puis un bâtiment qui est plus lié à l'activité avec les hangars qui sont vraiment de la production. Et quand on tient à cette notion de réintroduire la production en ville et qu'elle soit rendue visible, y compris quand elle sent un peu, puisqu'on fait du compost et que ça sent pas tous les jours bon, mais c'est ça aussi, la revalorisation des sols, ça passe par ça, ça passe aussi par aller glaner sur le territoire les fermiers qui sont sur place, les déchets produits par la ville elle-même, et reconstruire les sols qui étaient pollués avec cette matière-là, par leur travail, par la transformation. Et puis c'est aussi un restaurant qui est ouvert sur le quartier et qui boucle la boucle là de ce cycle de vie de la matière, qui la rend visible pour les habitants du quartier, mais qui est aussi la cantine des personnes qui sont hébergées sur place. Et puis tout ça est coiffé par une serre de production, puisque l'idée est de démontrer quand même qu'avec des techniques très simples, low-tech, on peut malgré tout être productif. C'est ce que veut montrer la permaculture et c'est l'enjeu aussi qui est là. Même si on est dans le cadre d'une production d'insertion, on vise quand même un modèle économique, une relative autonomie aussi et une raison d'être au-delà du récréatif.
Oui, et donc les personnes en insertion, en fait, elles étaient là dès le début du projet, avant même qu'on ait commencé à construire le bâtiment. Elles collectaient déjà les biodéchets auprès des restaurateurs du 19e arrondissement pour amender, en fait, les sols du site de la ferme. Donc, en fait, elles sont là, sont les actrices, toutes ces personnes, ce sont les actrices du projet au sens plein du terme.
Oui, ce qui m'a surpris et réjoui en même temps en lisant votre livre, c'est l'importance du mot travail dans les livres d'écologistes assez rares. Parce qu'on a une image peut-être aussi que c'est la fin du travail, bon, etc. Mmh. Et en fait, là, non. Cette préoccupation est décisive d'un point de vue philosophique, j'imagine, ouais. Pas seulement productiviste. Enfin.
C'est une question absolument centrale. D'abord, c'est ce que tu disais. Nous, on trouve que la question du travail, c'est la grande oubliée en fait, de la réflexion écologique. Alors, à la fois parce que... C'est difficile de dissocier l'écologie environnementale de l'écologie sociale. Comment imaginer une transition écologique si on n'embarque pas tout le monde, si on ne montre pas comment elle va être créatrice d'emplois aussi pour les personnes qui ont été le plus durablement éloignées du travail ou qui ont un faible niveau de qualification. Donc comment, en gros, ça peut les aider économiquement et socialement. Mais d'un point de vue plus général, la question du travail, elle est essentielle parce que c'est à travers le travail que l'être humain pense son métabolisme par rapport à la nature. Et donc aujourd'hui, il y a un courant métaboliste qui est très important, qui étudie les flux de matière et d'énergie entrant et sortant des villes. C'est très intéressant. Mais d'abord... De quelle manière nous, les êtres humains, on rentre en relation avec le reste du vivant hein, et du monde inorganique à travers ce processus de transformation qui est celui du travail. Donc à tous les niveaux, la question du travail, elle est centrale et elle doit être largement repensée vu son absence quasi totale, je trouve, des débats aujourd'hui.
Alors le travail, évidemment, ça fait penser au mot emploi et donc à celui de réemploi. Ouais. Donc là, c'est aussi réemployer des gens qui étaient en panne de travail. Et de l'autre côté, il y a quand même prendre en usage des matériaux biosourcés ou des matériaux de récupération. Le mot récupération, je le mets avec des guillemets, évidemment. Est-ce que dans la question du travail, on va rester 5 minutes là-dessus, est-ce que, puisque je vois que vous aviez comme partenaire Apichbat, est-ce que le chantier était un chantier où on privilégiait justement la réinsertion de personnes qui avaient été coupées du monde du travail ? Et
oui,
comment ça s'est passé, ça ?
Le chantier,
parce que
c'est
cette entreprise, cette association a posé son bilan, si j'ai bien
compris. Elle vient de déposer son bilan.
Ce qui est
alors,
très triste.
Peut-être pour d'autres raisons, je ne voudrais pas qu'on en conclue. C'est une impasse, surtout, au contraire, et ce n'est pas ce qu'ils en concluaient eux-mêmes, parce que l'histoire reste très belle. Bien sûr. Alors le chantier, nous, dans toute la démarche et dans toutes les démarches en général, il a une place absolument centrale comme un moment justement d'intensité sociale exceptionnelle, d'échange. Et puis c'est vrai, je voudrais revenir aussi sur la question de la construction de nouveaux écosystèmes là, à l'échelle urbaine. L'enjeu écologique va être bien sûr de décarboner notre façon de produire. Décarbonant, on va s'affranchir aussi de modes de production qui s'appuyaient sur la machine. On le dit souvent et on va plus revenir justement au lieu de tout numériser, même si le numérique pourra peut-être trouver sa place, de détruire le travail. On va au contraire, à notre avis, bien plus retourner vers des savoir-faire, vers la main qui pense, vers le faire et du coup beaucoup plus d'heures de travail, cette reconsidération aussi d'une autre économie du travail où on vient basculer ce qui était fait dans l'industrie ici, maintenant, dans notre territoire, avec une production relocalisée.
Et donc ça veut dire aussi pour cette personne qui n'avait, tu le disais Philippe, qui n'avait pas forcément un métier en main, une formation, etc., c'est aussi prendre en considération cette dimension-là, c'est-à-dire
avoir
les doter
sur le
d'un savoir-faire.
Cycle de vie de la matière, avoir sa compréhension, savoir où est-ce qu'il s'inscrit dans cette transformation, dans cette mise en œuvre. On le disait tout à l'heure, où étaient les personnes, donc il y avait cette mise en place en amont du compost, mais il y a aussi, bien sûr, aussi tous qui ont participé, Travail et Vie, qui est à la fois les personnes, l'association avec laquelle on a monté le projet, et aussi l'exploitant aujourd'hui, a participé au chantier directement, aux côtés d'Apichbat, qui sont aussi, qui est aussi une entreprise d'insertion,
oui.
et qui ont pu voilà, mettre la main à la pâte et pour certains habiter ensuite dans cette continuité. Donc il y a cette notion de, voilà, un peu de, on vient prototyper, on vient faire tout de suite sans attendre et être dans une continuité dès la première intention. Le projet est déjà là et quand les portes ouvrent et les personnes sont accueillies, on est dans cette même continuité.
Moi, ce que je trouve génial dans cette conception du chantier, enfin, c'est à la fois des chantiers d'insertion, mais qui sont des chantiers apprenants, en fait, où tout le monde apprend. Et ça, c'est aussi important pour tous les professionnels de l'architecture et de la construction, parce que quand on regarde ce que c'est que le chantier aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un lieu d'inégalité sociale et de violence, parfois quasiment à l'état pur, avec des sous-traitants, de sous-traitants, de sous-traitants, de gens qui viennent de l'étranger, qui vivent à 10, dans un micro-logement pour repartir ensuite. Donc, l'architecte qui est là pour donner des ordres et pour regarder si les choses sont bien faites, là, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est-à-dire que là, il faut, les architectes, ils doivent être sur le chantier. Et bien évidemment, quand on est sur du réemploi, c'est-à-dire sur des matériaux qui sont chacun singuliers, on ne peut pas tout standardiser. Donc, il faut être attentif à la matière, il faut être attentif aux personnes. Et il y a beaucoup plus de partage, en fait, et de relations humaines entre toutes les personnes qui concourent à la production du bâti. Et ça, je trouve que pour des archis, c'est quand même plus intéressant que d'être dans une agence à faire des clics derrière un ordinateur. C'est-à-dire que, c'est bien pour la planète, mais c'est d'abord bien pour nos métiers qui se sont incroyablement appauvris.
Oui, ça fait aucun doute. Et alors donc, ça veut dire aussi rencontrer des obstacles, des difficultés. Mm. Parce que, il se trouve que Rémi Beauvisage m'avait raconté ça ici même, que, par exemple, certains qui redécouvraient le travail étaient un peu fâchés avec les horaires, par exemple. arrivaient un peu en retard.
Ouais,
mais ils rattrapaient, aussi... c'était pas un problème. Voilà, donc j'imagine que c'est la même chose. Est-ce que dans le réemploi de matériaux, est-ce que il n'y a pas là aussi un tri à faire, des choses qu'on peut pas réutiliser, qu'on croyait pouvoir utiliser et pas, tu le disais, tout n'est pas standardisé, heureusement.
Justement, l'enjeu là des architectes à repenser aussi qu'est-ce que va être la condition de la personne qui va transformer et prendre soin aussi de la condition où il va mettre en œuvre. Et puisque aussi on est dans une économie, le travail coûte cher en France et pour aussi des bonnes raisons, parce qu'on est bien protégé sur certains aspects, et bien il faut aussi pouvoir faire un geste de qualité et aussi de l'optimiser quelque part aussi pour pouvoir faire mettre en œuvre ces autres façons de faire et dire aussi que s'adapter aux personnes qu'on accueille sur le chantier, ça veut dire aussi penser toi tu vas être à la bonne place au bon endroit et tu as envie de travailler à cet endroit et du coup tu vas te lever le matin parce que tu vas trouver sens au moment venir travailler sur le chantier, ça va prendre une autre dimension et tu vas acquérir un savoir-faire, te sentir reconstruit et recompétent et bien sûr on sait bien la désaffection du bâtiment et du BTP de main d'œuvre, les entrepreneurs s'en plaignent sans arrêt, mais c'est aussi qu'il n'est abordé souvent que du point de vue de la pénibilité. Or, on sait très bien aussi que ça peut être un acte de reconstruction pour tous.
On le sait avec notre vieil ami Charles Fourier, si le travail n'est pas attractif, on ne fait rien.
Je crois que les difficultés, là on parlait des difficultés humaines, mais ça pour moi ça fait plutôt partie du plaisir. C'est comme quand on est prof, on a des élèves de niveaux différents, il faut s'adapter, etc. Il y a des difficultés qui sont d'ordre structurel, qui sont liées aujourd'hui aux modalités de la production.
Et de la rentabilité.
Ouais. Et donc il y a des obstacles politiques, il y a des obstacles d'ordre économique, d'ordre assurantiel. Et je crois que tous les acteurs, les actrices, les acteurs de l'éco-construction, du réemploi doivent s'unir. Et ce n'est pas simplement les architectes qui doivent s'unir. Tu parlais d'Apichbat qui a déposé le bilan. Il faut créer, j'en suis profondément convaincu, des formes de solidarité entre tous les acteurs. C'est-à-dire les architectes doivent être solidaires des entreprises, ils doivent trouver des formes de mutualisation en fait, des risques. Et des bénéfices pour pouvoir perdurer.
Alors Clara, comment décrire, sans montrer, puisqu'on est à la radio, comment décrire ces bâtiments avec des matériaux de réemployés ou biosourcés, ou les deux.
Oui, alors, eh bien...
Moi, j'y suis allé, donc je vois très bien. Mais...
Ouais. Donc, je le disais tout à l'heure, un grand potager central qui vous accueille après être passé sous l'infrastructure depuis de manière un peu cachée, un peu secrète. Ah ouais. Vous passez sous un petit tunnel, sous la petite ceinture, et s'ouvre à vous donc un premier bâtiment de logement qui est construit en ossature bois, qui est isolé avec des bottes de paille, donc justement, Pichbat a mis en œuvre. Et puis revêtu de ce qu'on a donné d'une inspiration de ganivelle de châtaignier. Le châtaignier était un arbre cher à notre cœur chez Grand 8, pour maintes raisons, qu'on n'a malheureusement pas pu trouver en Île-de-France malgré les châtaigniers existants. Mais voilà, il y a vraiment une véritable indigence de la filière en Île-de-France. Il est très difficile de construire avec du bois francilien, même si les choses bougent, les choses s'organisent. Mais on a trouvé un fou furieux Rennais qui va chercher dans les champs et qui, voilà, on n'a pas parlé de cette dimension de solidarité agricole. La raison d'être d'une ferme à l'intérieur, d'une ferme urbaine à l'intérieur sur 1300 m², évidemment, la production est très modeste, mais sa raison d'être, c'est sa solidarité et ce qu'elle représente de solidarité et de lien avec notre ceinture maraîchère qui est à reconstruire, à renforcer autour de Paris. Et bien ces choses-là, et donc justement par les matériaux eux-mêmes, on retourne par la paille, ces liens aussi sont refaits à nouveau. C'est aussi créer celle-là, de créer des revenus complémentaires aussi pour les, dans ce sens de solidarité. Et donc cette ganivelle qui vient habiller, c'était un marché passé avec des agriculteurs pour laisser en friche leurs champs et que... et donc Hubert Brosseau venait ramasser, cueillir les rejets simplement et pas les fûts eux-mêmes, les rejets avec lesquels on a donc nettoyé, prendre soin de la forêt et permettre d'habiller la ferme avec ces rondins de châtaigniers, voilà, à peine équarris. Et là, du coup, c'est à nouveau à Pichbat qui a mis ça en œuvre, qui a fait la robe de la ferme. Et puis un bâtiment, donc un second qui s'ouvre sur la petite ceinture sur son premier étage. Dans la base, on a le hangar où on a les machines, donc un hangar de ferme, quoi. Et puis là, sauf que là, il a des vélos cargo pour aller chercher le compost et ce genre de choses qu'on trouve pas forcément dans les fermes rurales. Lieu aussi où se passent les distributions des différentes AMAP du quartier. Il y en a plusieurs. Les jardins partagés du quartier viennent faire des semis dans la serre elle-même. Donc il y a aussi tous ces liens de quartier. On n'est pas dans un entre-soi dans cette ferme. Il y a vraiment cette idée de projection sur son quartier et de venir donner des services au quartier. Et c'est voilà, ce retournement où des personnes qui sont en difficulté, qui étaient fragilisées, qui étaient assistées, deviennent des acteurs et deviennent ceux sur qui on peut compter dans le quartier pour rendre ces services. Ils sont un peu les services de la nature en ville. Et puis le restaurant qui s'ouvre sur la promenade de la petite ceinture et qui accueille le public, qui jalonne comme ça cette promenade. Qui est, du coup, la ferme est à un moment de cette promenade, donc s'inscrit dans un parcours urbain.
Le restaurant, c'est une affaire qui marche, j'ai l'impression.
C'est une affaire qui marche, oui. Il ne désemplit pas
Philippe, il y a dans le livre pas mal de réflexions que j'ai trouvées absolument passionnantes sur l'agriculture urbaine qui ne tombent pas dans l'idéalisme qu'on trouve souvent dans les discours politiques. Hein. Voilà, on va cultiver les toits, on va faire des fermes urbaines, etc. Non, là c'est beaucoup plus mesuré, réfléchi, et on dit que c'est pas si simple.
Oui.
Alors, qu'est-ce que serait une agriculture urbaine ? Là, on sort de la parcelle, hein, on réfléchit plutôt au sous-titre de votre livre. Hein, qu'est-ce que c'est qu'une ville écologique et solidaire ?
Le problème, je trouve, hein, d'un certain nombre de discours... Ça a vraiment changé là ces dernières années, mais pendant longtemps, les architectes avaient encore le fantasme de la toute-puissance en imaginant des fermes high-tech qui allaient faire pousser des tonnes de tomates. Donc finalement, derrière tout ça, c'est toujours l'idée de l'autonomie alimentaire, des villes. Alors que nous, ce qui nous semblait important, c'est de retrouver des formes de solidarité entre les territoires, de montrer que les territoires étaient interdépendants. C'est-à-dire, les villes consomment en gros des ressources qui sont produites ailleurs. Bon, avant, Paris avait une ceinture maraîchère. Donc, comment retrouver ces liens-là ? Enfin, arrêter de penser qu'on va tout produire nous-mêmes dans des sortes de super fermes, en plus fermées au public. hein, donc qui coûte très cher, avec une main-d'œuvre hautement qualifiée, avec une maintenance complexe. Voilà, donc comment on va pouvoir retrouver des liens avec les territoires et prendre davantage conscience en fait de cette interdépendance des territoires. C'est pour ça que c'est ce que disait Clara tout à l'heure. Comment on rend visible des liens? Comment on renforce les solidarités? Donc on renforce les solidarités en achetant la paille à un agriculteur. On renforce les solidarités en achetant les rejets de châtaigniers à un exploitant. On passe des accords avec un agriculteur qui va nous envoyer des légumes par le canal de l'Ourcq. Et puis nous, on lui envoie le compost. C'est ce qu'on voulait faire au début. Donc à chaque fois... la ferme est le lieu qui rend visible l'ensemble de ces liens et des formes d'interdépendance sans lesquelles, en fait, les territoires de subsistance ne peuvent pas exister. Donc, pour nous, l'agriculture urbaine, elle peut avoir, bien sûr, comme c'est le cas à la ferme, une fonction productive. On produit, des légumes. Mais elle est là surtout pour nous permettre de saisir qu'on doit être soucieux des uns des autres.
Alors, qui, Clara, cultive ? Là, je reviens à Marcel et au lieu précis de la ferme du Rail.
C'est l'entreprise, c'est une entreprise, Travail et Vie, dont je parlais tout à l'heure, qui est une entreprise d'insertion, mais qui a un modèle économique et qui doit... alors, Travail et Vie, ils ont plusieurs activités. Ils ont cette activité de... Mais ils ont aussi... Ils font du curage de bâtiments depuis 30 ans, enfin, depuis des années, c'est historique. Ils ont aussi une blanchisserie. C'est une toute petite structure sociale, mais avec qui s'adapte, en fait, aux personnes et à ce qu'elles ont envie de faire. Et du coup, propose plusieurs supports, en fait, pour l'insertion. Et je dis ça pas par hasard sur le curage, c'est par rapport aux matériaux de réemploi, aux matériaux de cueillette qu'on va chercher partout sur le territoire et qu'il faut remettre en œuvre, réinventer. Nous, on a tous cette responsabilité de réinventer l'esthétique et l'architecture avec laquelle on va pouvoir faire avec les matériaux qu'on va aller chercher comme ça. Et on a besoin d'eux, de ces personnes qui savent prendre soin, qui savent les regarder, ces matériaux, qui savent les préparer, qui savent les remettre en œuvre aussi, finalement. Ce que des entreprises classiques, c'est plus compliqué pour nous de faire ça pour l'instant, mais ça, on y vient.
Il faut y aller.
Ça se passe quand même. Mais c'est vrai que voilà. Donc, c'est eux qui cultivent et c'est eux qui ont cette activité avec lesquelles on a eu d'autres chantiers dans le quartier aussi. Pour être dans cette continuité dont je parlais tout à l'heure aussi.
Alors la ferme du Rail a été saluée à juste titre par tout le monde, était devenue un peu la représentante de cette expérience un peu partout en France. Est-ce que d'abord ça t'empêchait aussi peut-être un peu de faire vivre ton agence, mais indépendamment de ça, est-ce que t'as perçu quand même que ça prenait, que ça allait s'aimer, que ça allait inspirer d'autres architectes dans d'autres lieux ou d'autres élus?
Alors, je pense déjà qu'il y a énormément d'incels. Celle-ci est visible pour diverses raisons. Et en plus, je pense qu'il y a réellement beaucoup d'initiatives, pas forcément parisiennes, qui croisent profondément ces questions du social et de l'environnemental. On en a pas mal d'exemples en milieu rural, sur des plus petites communes, peut-être justement aussi, où ces initiatives-là... c'est vrai que, ce contexte dans ce territoire-là était puissant. Ça pose la question de la reproductibilité. C'est évidemment pas un copier-coller de la ferme qui pourra se produire, ça n'aura pas d'intérêt. Ce qu'on garde quand même en transmission, et je pense que ça... Enfin, on a échangé avec pas mal de collectifs et les choses vont plus loin. Ce qui est reproductible, c'est cet esprit-là, c'est celui de l'accueil, justement, celui de peut-être, très, très, très incarné, de dire héberger, travailler, ces piliers-là, et s'ouvrir sur le quartier, ça reste pour nous des orientations fortes et qui sont, je pense, entendues et comprises aussi par beaucoup. Maintenant, il faut sortir de l'objet exceptionnel, et c'était vraiment pas l'intention. Oui, et s'aimer, oui, je pense que ça a quand même parlé.
C'est ce qu'il faut, à mon avis. Ouais. Alors, d'autant plus qu'on n'a pas le temps d'en parler, mais ce n'est pas simplement un bâtiment avec du réemploi, c'est un bâtiment qui est beau. Il y a une beauté peut-être... Non, mais une beauté qui est peut-être due au site aussi, et puis à l'intention. Moi, je crois plutôt que c'est lié à l'intention. Je pense que l'architecture, pour moi, c'est ce qui honore l'activité qu'elle accueille. Et donc, si on n'a pas ça, On a une école, mais qui n'est pas une école. On a, on a un hôpital qui n'est pas un hôpital. Là, on a une ferme qui est plus qu'une ferme, puisqu'il y a de l'hébergement et on sent bien que c'est pour une population fragilisée. Et puis, de l'autre côté, il y a ce restaurant où vient une clientèle qui n'a rien à voir avec cette origine sociale, hein, mais qui, du coup, en prend conscience aussi. Et ça, c'est, à mon avis, excessivement positif. Tous les deux, dans votre livre, vous concluez par un appel à une écologie des relations. Alors, ça me semble tout à fait juste, même un peu, ne prenez pas ça mal, hein, une sorte de pléonasme, puisque l'écologie, elle est interrelationnelle. Hein, c'était ce que nous racontait Ernst Haeckel. Bon, mais gardons l'expression, elle me plaît beaucoup, parce que derrière, on sent les relations entre l'humain et le vivant. Parce que le mot vivant est fréquent dans votre livre, et ça, c'est nouveau parmi les architectes. Pas les philosophes, mais les architectes. Parce qu'on parle, au mieux, on parle d'humanisme, etc. Mais là, c'est plus fort encore. Alors, je ne sais pas, Clara, par rapport à ta formation, par rapport à tes autres réalisations, en quoi ce projet qui est devenu un trajet, finalement, dans ta vie, va modifier ce rapport entre l'organique et l'inorganique?
Oui, c'est marrant que tu parles de trajet parce que c'est vrai que c'était y a une dimension très initiatique là dans le chemin qu'on a fait dans ce projet. Là, il faut que je parle absolument du rapport de la communauté, enfin de comme elle m'a initiée. C'est Mélanie Drevet, donc qui a un parcours elle dans qui est paysagiste donc du projet avec laquelle on partage nos locaux et on partage beaucoup plus que ça évidemment une grande amitié et beaucoup de voilà et donc la présence aussi ces échanges quotidiens et cette on a vraiment pensé les choses ensemble et le vivant du coup a pris toute sa place toute son développement dans le projet et dans les projets futurs. Il n'est plus question de penser cet acte de bâtir sans celui de celui qu'on accueille, de tous ceux qu'on accueille au sens très large. Et il ne s'est bien entendu pas s'agi de verdir l'espace, mais de faire avec les vivants qui sont là et qui en prendraient soin eux-mêmes à nouveau et par ce retournement. On a beaucoup accusé Réinventer Paris de brocoliser les bâtiments. Ouais. Ici, la chose était pensée, on revient au travail avec le travail. C'est aussi celui qui va prendre soin de son environnement et du vivant autour de lui et savoir l'accueillir.
Mais dès qu'on parle du vivant, on parle des rythmes, on parle des temporalités. Ouais. Donc on sort là d'une organisation, j'allais dire, banale, enfin d'une vie quotidienne. Il y a des rythmes différents selon les saisons, Philippe.
Oui, en fait, écologie de la relation, ça veut dire être attentif à autre chose que nous-mêmes. Et être transformé dans la relation. Donc, le drame aujourd'hui, c'est qu'on est dans une écologie qui est plutôt une écologie de la performance. Et notamment chez les architectes, parce que je crois que les architectes sont rentrés dans la question écologique à travers les enjeux climatiques. Donc, comment on va faire des bâtiments super performants, comment on va diminuer les calories consommées, etc. Bon. C'est très important, mais on demande à des super objets de faire le boulot à notre place. Et du coup, on n'est pas impliqué là-dedans. Ce qui nous intéressait, nous, c'est de dire, en fait, à quoi on tient et comment les choses, elles tiennent dans des formes de liens et de relations. Et donc, en étant attentif aux autres, là, on parle des personnes en insertion, mais aussi des autres êtres vivants, des êtres vivants dont on peut se servir aussi pour construire. Parce que c'est bien beau de dire qu'on va construire en bois, en paille, etc. Mais à chaque fois, c'est du vivant. Qu'est-ce que ça veut dire d'être en relation avec ce vivant qu'on mobilise à un moment comme un matériau? Et puis à tous les autres êtres vivants qui peuvent aussi bénéficier du lieu qu'on est en train de penser et dans le fond de coproduire avec eux. On n'est pas les seuls producteurs, nous. Mmh. Et donc, oui, ça nous rend attentifs à d'autres êtres que nous, mais en effet, à d'autres rythmes, à d'autres manières d'être, à d'autres façons de cohabiter ensemble.
Oui, c'est pour ça que moi, je suis de plus en plus persuadé que, aussi bien en architecture qu'en philosophie, il nous faut entrelacer territorialité et temporalité, parce que les deux vont ensemble. C'est pour ça que j'ai piqué une petite colère contre cette bêtise de la ville du quart d'heure ou je ne sais pas quoi, parce que ça n'a pas de sens de normaliser le temps à sa propre disposition à être lui-même, comme le territoire. Ouais. Et donc ça, c'est important. Clara ?
Oui, bah, c'est vrai que même de façon opérationnelle, la notion de proximité, c'est une chose toute relative. Et proche, en fait, d'abord celui qui partage votre vision, il peut être à quelques distances. Mais ce rapport au temps, j'y reviens aussi, c'est le rapport au temps de... du temps de faire, en fait. Le temps de faire, on se le...
Et là, le chantier, il a été...
On se le donne pas, on a industrialisé le chantier.
Il s'est bien déroulé, il n'y a pas eu...
Il s'est bien déroulé, alors, voilà, comme un chantier, mais je n'ai pas idéalisé ce moment-là, absolument. Il s'est aussi beaucoup bien déroulé, parce qu'il y a eu du care, là aussi, un petit peu. C'est que travailler vie, prenez soin du chantier. Ils étaient chargés de ce qu'on appelle d'habitude l'installation de chantier, qui est un peu un mot pas joli, mais ils s'étaient, du coup, chargés de la relation avec les voisins, de préparer les repas du déjeuner, de parler à tous, et voilà. Et du coup, c'était l'hôte, en fait, du chantier, et ça a complètement changé son déroulement et le bonheur d'y être et de supporter aussi les moments durs que connaissent tous les chantiers. On s'est un peu embourbé, il y a eu bien sûr des contraintes. Il ne faut pas tout idéaliser.
Mais ça, c'est pareil que la philosophie, qui est un vaste chantier, non ?
Toujours en chantier.
Voilà. Et peut-être, voilà, donc se redonner ce temps de chantier. C'est un moment politique aussi, le chantier, en fait. C'est un moment qui doit être revu. C'est un moment qui doit être donné à voir à tous les citadins aussi. C'est un moment beau. En fait, on se cache, on se planque, c'est interdit au public. Comme si on faisait des trucs dégueulasses derrière, mais en fait, il faut le montrer.
Mais c'est vrai que cette question du temps là que tu évoquais tout à l'heure, Thierry, elle est fondamentale parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le facteur en fait qui gouverne la production du bâti, c'est le facteur temps. C'est-à-dire construire les choses le plus vite possible. Alors il va falloir qu'elles coûtent le moins cher possible, voilà, le plus vite pour que ça soit moins cher, avec des matériaux toujours de plus en plus, de moins en moins intéressants, en tout cas écologiquement, alors qu'il y a un enjeu à se redonner le temps, en fait.
On va écouter une musique, et la musique, c'est l'interrelation, non ? Et oui, Handel, concerto pour au bois. Je rappelle le livre de Clara et Philippe Simet, chez Actes Sud, La ferme du rail pour une ville écologique et solidaire, qui fait 208 pages et qui coûte 20 euros. J'ajouterais quand même qu'il y a des très beaux dessins. Clara, de qui sont les dessins ?
Ils sont de Anna, qui a fait ça chez nous et qui a donc repris, parce que toutes nos archives de photos de chantier, etc.
Non, c'est bien parce que ça incarne du coup aussi, ouais. Parce que vous êtes même représentés, hein, ceux qui sont sur le chantier. Merci beaucoup à vous.
Merci.
Urbanité. Une émission en partenariat avec Terre Urbaine à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.